Le progrès chrétien de George Whitehead, 8e partie, suite, il y eut un autre événement qui devrait également être consigné. Un quatrième jour de la semaine, je fus tiré d'une assemblée à Whitehead Court, dans Gracyshire Street, par un officier aidé de quelques autres, et conduit devant Samuel Stirling, le Lord Maire, où l'on donna information contre moi, disant qu'on m'avait pris dans une telle assemblée. La question fut, qui faisais-je ou sous quelle forme d'exercice religieux étions-nous? L'officier répondit qu'il m'avait arrêté pendant que je prêchais. Le maire demanda si notre assemblée n'avait pas été un conventicule et si notre exercice ou religion n'avait pas été contraire ou non conforme à la liturgie et à la pratique de l'Église d'Angleterre. Je répondis, le témoin ne le prouve pas. Il me demanda si, dans cette réunion, la liturgie ou prière commune avait été lue parmi nous. Je lui dis qu'il ne devait pas aller contre moi au-delà de sa preuve, qu'a dit le témoin. Nous n'allons pas témoigner contre nous-mêmes. Le témoin n'a pas dit que nous exercions une religion contraire à la liturgie, il ne témoigne pas non plus que nous n'ayons pas lu la liturgie. Il peut seulement dire qu'il est entré dans la réunion quand je prêchais et qu'il m'a pris en train de prêcher, mais il ne sait pas ce que je prêchais, de sorte qu'il est entré au moment du sermon et la liturgie ou prière commune a lieu avant le sermon. J'employais cet argument avec lui parce qu'il avait tenu notre réunion pour un conventicule et illégal au motif que la prière commune n'y avait pas été lue. Et j'arguai donc que la preuve dont il disposait ne démontrait pas la chose ni l'accusation portée contre moi ou contre aucun de nous qui étions à la réunion. Par conséquent, il ne pouvait raisonnablement procéder contre nous sur la base de la preuve apportée. Toutefois, je lui dis que notre manière d'exercice religieux est bien connue. J'eus à certains moments des discussions religieuses avec le Lord Maire et je m'efforçai de lui inspirer de meilleurs principes que ceux de la persécution. Il était en quelque sorte croyant en matière de religion, et parfois touché par la vérité. Il me traita plus équitablement que ne le firent certains autres persécuteurs, et j'obtins de lui une compassion plus juste que de la part de quelques autres magistrats. Il n'était pas l'un des pires persécuteurs de ces jours-là, bien qu'il se joignît parfois trop promptement aux autres dans cette œuvre antichrétienne de persécution contre nous. Le 17 jour du 5e mois 1670, étant le premier jour de la semaine, les amis furent maintenus dehors dans la rue, près de leur maison de réunion, à Peel d'Ancin. John Street, ainsi appelé, par des soldats en habits rouges et un constable, et lorsque deux femmes dirent quelques paroles de vérité et de sobriété, les soldats vinrent et les arrachèrent violemment. Comme ils venaient pour les prendre, certains furent si violents qu'ils poussèrent hommes et femmes avec leurs mousquets et déchirèrent une partie des vêtements de Mary Wicks, son foulard et son tablier, et la pincèrent. Ils meurtrirent quelques-uns des hommes amis avec leurs mousquets, au point qu'un ami cria au constable de maintenir la paix. George Whitehead, vers la fin de la réunion, fut poussé avec beaucoup de tendresse et le cœur brisé, à invoquer le Seigneur dans la prière. Peu après qu'il eut commencé, les soldats le tirèrent rudement et violemment dans le vestibule au milieu d'eux. George Whitehead leur parla alors de leur méchanceté et de leur conduite incivile envers les femmes, et combien leur action était au-dessous même de soldats et au-dessous de l'esprit d'homme, dans leurs abus envers des hommes et des femmes paisibles. Peu après, ils tirèrent aussi dans leur poste de sentinelle ou de garde John Scott et Samuel Richardson, et ces trois hommes furent détenus sous leur garde près de 3 heures. Puis une grande compagnie de soldats en habits rouges les escorta sous garde jusqu'à une taverne proche de Clerkenwell, où se trouvaient 2 juges de paix, le juge Fausté et le juge Bull, avec une grande compagnie de gardes à cheval du roi devant la porte. Comme George Whitehead et ses amis furent amenés à la porte, il réclama justice disant, « Je suis content d'être venu devant les magistrats civils. Nous désirons justice de votre part contre les soldats qui nous ont tenus hors de notre réunion dans la rue et nous ont pris contrairement à la loi, même contrairement à l'acte actuel du Parlement, qui ne leur ordonne pas de se mêler des réunions à moins qu'il n'y ait résistance, et sur attestation de cela comme l'acte le mentionne. En outre, certains de ces soldats se sont conduits rudement, ont maltraité plusieurs de nos amis et ont frappé quelques femmes avec leurs mousquets et les ont blessées. De plus, nous faisons entièrement exception contre ces soldats comme témoins, les tenant pour impropres, et ils ne devraient pas être acceptés comme témoins contre nous, eux qui ont eux-mêmes enfreint la loi. » George Whitehead réclama plusieurs fois justice, comme ils auraient à répondre devant le grand Dieu, ou le ciel et la terre, qui jugera justement entre nous. Le juge de paix dit, « Vous aurez justice. » Alors un major à cheval dit au juge de paix, « Monsieur, il prêchera jusqu'à la nuit si vous voulez l'écouter. » Le juge de paix s'inclina, chapeau ôté, devant le major, lui montrant grande révérence et empressement à condamner les prisonniers. Le major et le capitaine, avec d'autres, mirent pied à terre et entrèrent pour voir les 2 juges de paix faire leur besogne contre les prisonniers. On appela les habits rouges, et beaucoup d'entre eux entrèrent pour témoigner contre nous, mais George Whitehead fit exception contre eux comme témoins illégaux, comme auparavant. Pourtant, contrairement à la loi et à l'équité, on les fit prêter serment pour témoigner contre les prisonniers qu'ils avaient maltraités et appréhendés illégalement, les juges de paix ne les avertissant nullement de prendre garde à ce qu'ils juraient, mais le major le fit. Ce qu'ils déposèrent sous serment contre George Whitehead, c'est qu'il y avait eu environ 300 personnes réunies dans la rue, qu'il l'avait pris en train de prêcher, debout sur un étal ou une banquette. George Whitehead répondit : « Ce n'est pas vrai, je priais debout à même le sol, seulement appuyé sur un étal, soldat. Nous l'avons pris en train de prier, mais appuyé sur une banquette, George Whitehead. » Voyez comme leur déposition est confuse et contradictoire, prêcher et prier sont deux choses, et la prière n'est pas mentionnée dans cette clause de l'acte fait contre ceux qui s'arrogent le droit de prêcher ou d'enseigner, juge de paix Fausté, vous les avez conjurés de venir à la réunion, George Whitehead. Ce n'est pas vrai car ils étaient déjà rassemblés avant que je ne vienne à la réunion. Major, il va jusqu'à dire au juge de paix qu'il ment, George Whitehead. Je ne lui dis pas qu'il ment, mais je redis que c'est faux que j'ai conjuré le peuple de se rassembler. Le major réprimanda les soldats d'avoir outrepassé son ordre en sortant dans la rue pour prendre nos amis, disant « Je vous ai donné l'ordre seulement de les maintenir dehors dans la rue et de monter la garde à la porte. » Juge de paix Boule, « Monsieur, mais après votre départ, je leur ai ordonné de prendre ceux qui prêchaient et je les en remercie. » Juge de paix Fausté, « Que diable êtes-vous venu y faire à prier, George Whitehead ? Ces paroles conviennent-elles à un magistrat ? Nous ne nous réunissons pas pour entendre ou chanter des ballades dans la rue. Nous ne nous réunissons pas dans des théâtres, ni dans des maisons de débauche, ni dans des débits de boissons pour nous enivrer, où le diable est servi, mais uniquement pour servir et adorer le Dieu vivant, pourquoi nous souffrons. » Le major et quelques autres avec lui parurent très émus par ces paroles, s'écriant « Qui accusez-vous ? Qui accusez-vous d'aller dans des maisons de débauche ?» Alors certains des présents se sourirent les uns aux autres, George Whitehead. « Je n'accuse personne, mais je vous dis de quoi ne consistent pas nos réunions, et nous ne reconnaissons pas de telles accusations, et j'explique pourquoi nous nous réunissons. » L'information donnée par les soldats contre John Scott était qu'ils l'avaient pris en train de prêcher. Ils l'accusaient de cela parce que, lorsqu'ils vinrent avec violence, il leur demanda d'être modérés. Et quel crime a-t-il commis en cela ? Leur information contre Samuel Richardson était qu'il avait posé des mains violentes sur l'un de leurs mousquets. Mais c'était entièrement faux, et nié par Samuel Richardson, car il se tenait paisiblement, dit-il, les mains dans les poches dans la réunion. Alors les juges de paix semblèrent enclins à condamner les prisonniers sur la loi contre les conventicules, et George Whitehead eut quelques mots avec eux à ce sujet, plaidant pour prévenir leur sévérité. Mais le juge de paix Fausté pressa qu'on les condamnât. Deux mandats furent dressés, et George Whitehead, John Scott et Samuel Richardson furent conduits à New Prison par le constable et les soldats. Les cavaliers, pendant tout le temps de leur examen, se tinrent devant la porte où ils étaient. On remarqua que, dans leur ordre d'écrou, ils omirent d'inscrire le nom de George Whitehead, et à la place ils inscrivirent Anse Cotten, qui était un soldat ayant aidé à les prendre. Le lendemain de l'incarcération étant le deuxième jour de la semaine, le 18 au jour du cinquième mois, vers la sixième heure de l'après-midi, les deux juges de paix susdits vinrent à la prison. Ayant fait venir George Whitehead dans la pièce auprès d'eux, ils lui demandèrent son nom et son domicile, ce à quoi il répondit. Puis ils parlèrent en ces termes, qu'ils avaient plusieurs lois sur lesquelles ils pouvaient procéder contre lui, et notamment le statut d'Oxford, le serment, etc. Le greffier avait en main le serment d'allégeance, écrit avec des blancs laissés pour les noms, et un livre de lois était devant eux. George Whitehead répondit, « Je vous prie de ne pas chercher à nous tendre des pièges, car la loi n'a pas été faite pour faire des hommes des transgresseurs, mais pour les punir lorsqu'elle en trouve. » Nous avons été appréhendés et accusés comme contrevenants à la récente loi contre les conventicules, qu'on nous juge d'abord sur cette loi, et qu'on nous acquitte sans nous dresser un nouveau piège, juge de paix Fausté. Nous ne vous tendrons pas de piège, si vous payez vos 20 livres, vous serez relâchés. » George Whitehead répondit quelque chose au sujet du dit acte, disant qu'il ne pouvait en être justement inculpé, mais ils le firent vite se retirer et firent entrer John Scott, qui avait eu un long entretien. Ils l'accusèrent d'être un ancien soldat et lui proposèrent le serment, selon l'acte d'Oxford, fait contre les ministres non conformistes qu'il refusa de prêter. Ils menacèrent de le garder en prison 6 mois, après quoi, ils firent de nouveau entrer George Whitehead et Samuel Richardson. Ils demandèrent à George Whitehead s'il paierait ses 20 livres et s'il promettrait de ne plus venir à la réunion à Peel. George Whitehead répondit : « Je ne puis payer aucune amende ni argent pour prier Dieu ou l'adorer, et quant à promettre de cesser d'assister aux réunions là-bas, je ne m'appartiens pas. Je me tiens dans la volonté de Dieu, et je ne puis promettre une telle chose qui restreindrait ma venue pour adorer ou prier Dieu. » L'un d'eux demanda à Samuel Richardson, « Promettras-tu de ne plus venir à aucune réunion ?» Samuel Richardson, « Je ne peux promettre une telle chose, juge de paix. Paierez-vous vos 5 shillings ?» Samuel Richardson, « Je ne sais pas que je vous doive 5 shillings. » Ainsi ayant infligé à George Whitehead une amende de 20 livres, comme ils le dirent, bien qu'elle ne fût pas levée, et à Samuel Richardson 5 shillings, ils les relâchèrent. Mais ils retinrent John Scott en prison 6 mois pour une prétendue violation de l'acte d'Oxford, bien qu'il ne fût pas ministre non conformiste et qu'il ne prétendît pas aux ordres sacrés. Quel était le grand crime dans sa demande de modération adressée aux soldats grossiers et violents? Nous sentions la puissance et la présence du Seigneur, et qu'il se tenait près de nous et nous fortifiait pour porter notre fidèle témoignage chrétien pour son nom et son culte, au travers de toutes ses épreuves et persécutions. Nous sentions aussi que le Seigneur, notre Dieu, plaiderait notre cause innocente, et qu'il la plaidait souvent, jusque dans la conscience de beaucoup de nos adversaires, persécuteurs et juges, de sorte que parfois ils avaient bien du mal à poursuivre ou à mener leur ouvrage contre nous. En ce temps-là, et bien d'autres fois, le Seigneur notre Dieu daigna retenir le reste de leur colère, ne leur permettant pas d'aller jusqu'à l'exécution de leur fureur ni des maux qu'ils avaient projetés. Gloire, honneur et domination soient à notre Dieu et à l'agneau, au siècle des siècles. Au 8e mois de l'année 1670, je revins de la campagne à Londres. Je fus pris d'une grande douleur à la tête, qui me rendit malade, dégénérant en une fièvre intermittente et en une fièvre. Je devins si faible physiquement que, pendant quelques semaines, il semblait y avoir peu d'espoir de mon rétablissement. Cette maladie se prolongea, et je demeurai très faible pendant environ 6 mois, jusqu'au commencement du 2e mois 1671, et en partie jusqu'au début de cet été-là. Puis il plut au Seigneur de me rendre progressivement la santé et les forces. Quand j'étais le plus affaibli par la maladie, j'étais bien préparé et librement résigné, dans la volonté du Seigneur, à mourir, afin d'être pour toujours avec lui. Je reçus une ouverture ou une appréhension que, lorsque je mourrais, mon âme serait reçue dans le sein de mon Père céleste. Tandis que j'étais dans une grande faiblesse du corps, on me rapporta à plusieurs reprises les grandes et cruelles souffrances de nos amis à Southwark, pour s'être réunis en leur lieu habituel de réunion à Rosledown. Combien barbarement et cruellement ils étaient traités, et grossièrement maltraités par des soldats et des hommes armés, tant à cheval qu'à pied, étant non seulement tenus hors de leur maison de réunion dans la rue, mais hommes et femmes étaient violemment poussés avec des mousquets et d'autres armes, battus, meurtris, blessés et mutilés, et beaux. J'eus grand chagrin d'entendre ces barbaries et d'autres du même genre contre des innocents, et j'éprouvai une profonde sympathie en esprit pour les innocents souffrants, priant instamment Dieu Tout-Puissant pour eux, afin qu'il les préservât et les délivrât, et qu'il réprimât cet esprit persécuteur par lequel ils souffraient. Des prières ardentes avec larmes étant alors la très grande préoccupation de l'Église, ce que le Seigneur notre Dieu, en son temps, entendit gracieusement et exauça, béni soit son nom. La cause des persécutions barbares contre notre réunion à Southwark fut l'ordre suivant. À la cour de Whitehall, le 29 juillet 1670, présent, la très excellente Majesté du Roi, Son Altesse le Prince Rupert, le Lord Archevêque de Canterbury, le Lord Keep, le Duc de Monmouth, le Duc d'Ormond, le Comte d'Ossory, le Comte d'Oxford, le Comte d'Anglesey, le Comte de Bath, le Comte de Craven, le Lord Ashley, M. Le trésorier, M. le vice-chambellan, M. le secrétaire Trevor. Sa Majesté ayant été informée qu'il y a eu récemment de fréquents conventicules et réunions séditieuses, sous prétexte de culte religieux, contraire aux lois établies en mépris d'Aïssel, dans une maison au bâtiment à Rosledown, jouxtant à l'Artillery Garden, et que les personnes qui s'y assemblent s'y conduisent d'une manière si émeutière et tumultueuse que, si leur réunion était plus longtemps tolérée, la paix de Sa Majesté et la tranquillité du gouvernement en seraient manifestement mises en danger. Pour prévenir cela, il fut ordonné ce jour, Sa Majesté étant présente au Conseil, et par son commandement exprès que Christopher Wren, inspecteur général des travaux de Sa Majesté, fasse abattre et démolir la dite maison ou le dit bâtiment, au cas où dorénavant, ou à quelque moment que ce soit, on présumerait s'y réunir ou y tenir quelque conventicule ou assemblée illégale sous couleur de culte religieux. Et il fut en outre ordonné par Sa Majesté que cette signification de son bon plaisir royal soit affichée sur le dit bâtiment, afin que les propriétaires et occupants d'Aislui en prennent connaissance pour prévenir et empêcher de telles réunions à leur risque. Cet ordre fut à la fois affiché sur la porte de la maison de réunion et bientôt mis à exécution, car ils démolirent la maison de réunion et en emportèrent les planches, fenêtres, bancs et sièges et les vendirent. Il est à noter qu'il n'y eut ici ni procès judiciaire ni procédure légale dans cette dure affaire. La démolition ne reposait que sur un ordre fondée sur l'information que nos réunions étaient des conventicules, séditieuses, émeutières et tumultueuses. Cette information était entièrement injuste et notoirement fausse, et rien de tel n'a jamais été prouvé contre nos assemblées ou réunions. Nos amis innocents, se sentant obligés en conscience envers Dieu Tout-Puissant, résolurent de tenir leur réunion solennelle dans la maison de réunion vouée à la démolition. Ils continuèrent de se réunir dans la crainte et la révérence du Seigneur, sans être terrifiés par l'ordre ni par la rage et la violence de leurs persécuteurs. Tant qu'elle resta debout, ils se réunirent constamment les premiers jours. Après qu'elle eut été abattue, ils en retirèrent les décombres, afin de pouvoir se réunir sur le sol où s'était tenue leur propre maison, ce qu'ils firent jusqu'à ce qu'ils fussent chassés et barbares traités par les soldats. Le 25 jour du 7e mois 1670, les amis s'étaient assemblés paisiblement au lieu de réunion habituelle susmentionné. Quelques mousquetaires vinrent et les traînèrent dans la rue, où les cavaliers arrivèrent et s'élancèrent parmi eux à cheval, d'une manière violente et furieuse, battant et maltraitant hommes et femmes, les frappant au visage et au corps avec leurs carabines. Peu après, les soldats à pied vinrent et fondirent aussi sur eux, et battirent hommes et femmes d'une manière cruelle et outrageante, les frappant aux pieds avec les crosses de leurs mousquets, jusqu'à leur briser les pieds pour certains, et ils appuyèrent violemment le bout de leurs mousquets contre le corps de beaucoup. Puis un groupe de cavaliers tenta désespérément de leur passer dessus, mais les chevaux furent plus miséricordieux, ou naturellement plus doux que leurs cavaliers, et n'avancèrent pas pour piétiner le peuple. Les cavaliers les tournèrent alors, les bridèrent et les retinrent pour faire du mal au peuple. Le nombre de ceux qui furent blessés et fortement meurtris ce jour-là fut de plus de 20 personnes. Le 2 jour du 8e mois, ils furent tenus éloignés de leur lieu de réunion susmentionné. Un détachement de soldats à pied et un détachement de soldats à cheval vinrent et attaquèrent les amis d'une manière violente et cruelle, les frappant avec leurs mousquets et leurs piques, et les cavaliers avec leurs carabines, jusqu'à ce que le sang couvrit les rues. Ils continuèrent quelque temps, jusqu'à avoir brisé plusieurs de leurs piques et mousquets et une carabine. Plusieurs amis furent si battus et meurtris que leur vie était en danger. Les blessés et grièvement meurtris ce jour-là furent au nombre de plus de 30 personnes. Le 9 au jour du 8e mois, les soldats à cheval et à pied vinrent à la réunion au lieu susmentionné, et l'un d'eux, tenant une pelle, jeta de la terre et de la boue sur hommes et femmes d'une manière honteuse. Après lui, cavaliers et fantassins fondirent furieusement sur eux, frappant et jetant à terre sans égard à l'âge ni au sexe, d'une manière très cruelle, jusqu'à faire couler le sang de beaucoup. Lorsque certains habitants, par pitié, les firent entrer chez eux pour sauver leur vie, les soldats forcèrent les portes, les traînèrent et les poussèrent de nouveau dehors dans la rue, et leur arrachèrent leurs chapeaux pour pouvoir frapper leur tête nue, et beaucoup purent la tête ouverte d'une manière lamentable. Ils continuèrent ainsi quelque temps, arrachant les vêtements des hommes et des femmes, et traînant les femmes dans la boue, le long des flancs de leurs chevaux. Certains soldats à pied passèrent impudemment les mains sous les jupes des femmes, proférant des paroles obscènes et se conduisant de façon très indécente. Un soldat en habit rouge frappa deux fois une femme amie au corps avec son mousquet, et une fois à la poitrine, un autre lui lança de la terre au visage, et par leur mauvais traitement sa vie fut grandement mise en danger. Un ami, après avoir souffert des coups, fut porté dans le lieu de réunion, où l'un demanda son argent et entreprit de lui fouiller les poches, jurant et menaçant de le poignarder s'il ne le lui donnait pas, jurant encore qu'il le tuerait avec son pistolet. Le nombre de ceux qui furent grièvement meurtris, et de ceux dont le sang fut versé ce jour-là, fut de plus de 50 personnes. Le 16 jour du 8e mois 1670, étant de nouveau tenus hors de leur lieu de réunion, il vint une troupe de cavaliers et de fantassins, prêts à se jeter encore violemment sur nos amis. Mais quelques constables étaient là et, pendant un court moment, les tinrent à distance. Toutefois, finalement, ils éclatèrent en fureur, frappant certains amis aux pieds avec les crosses de leurs mousquets. Les cavaliers employèrent de gros bâtons et gourdins pour frapper et battre furieusement ceux qui se réunissaient, comme s'ils avaient voulu tuer tout le monde sur place, faisant couler le sang autour des oreilles de beaucoup. Plus de 20 personnes reçurent alors de graves blessures et contusions. Lorsqu'un constable s'efforça de les empêcher de répandre le sang et de maintenir la paix, ils s'en prirent aussi à lui et lui ouvrirent la tête. Et lorsqu'ils furent réprimandés pour leur cruauté, certains répondirent « Si vous saviez quels ordres nous avons, vous diriez que nous avons agi avec miséricorde envers vous. » L'essentiel de ce récit fut présenté au roi et à son conseil, et pendant un temps il y eut quelques cessations de ces cruautés, mais ensuite ils recommencèrent de manière semblable, quoique pas au même degré, pourtant avec de grandes menaces d'être de pire en pire dans leur conduite envers tous les amis, ce qui n'aurait été possible qu'en commettant directement un meurtre sur place. On observa que, Lorsque les cavaliers et les soldats étaient venus et avaient maltraité et blessé les innocents, certains leur demandèrent « Comment pouvez-vous agir ainsi envers un peuple qui a amour et bonne volonté pour tous les hommes, qui ne fait aucune résistance ni opposition ?» Ils répondirent « Nous préférerions, et ce serait mieux pour nous, qu'ils résistassent et s'opposassent à nous, comme s'ils voulaient une occasion de tremper leurs mains dans le sang innocent et d'avoir en proie la vie et les biens de gens honnêtes. » Heureusement, ils ne purent jamais trouver une telle occasion, ni résistance ni opposition à utiliser contre nous. Et ainsi le Seigneur, notre Dieu très gracieux, pour l'amour de son nom et de sa vérité, retint le reste de la colère de nos adversaires, mit en échec leurs mauvais desseins et déjoua leurs projets malicieux. Et en lui nous avons mis notre confiance, lui qui nous a aidés et délivrés de bien des troubles. J'ai d'autant plus volontiers inséré les récits précédents de persécution que j'avais été très profondément et douloureusement affecté par les fréquents récits qui me parvenaient de trop nombreuses persécutions barbares et cruelles, durant le temps de ma longue maladie et de ma grande faiblesse corporelle. Le Seigneur, mon Dieu, m'ayant rendu la santé, il me rendit de nouveau capable de travailler et de voyager à son service dans l'évangile de son cher Fils, le Christ Jésus, et de souffrir avec son peuple, et de m'adresser au roi et au gouvernement pour leur délivrance. La main du Seigneur et son conseil furent souvent avec moi pour aider, encourager et fortifier mon cœur dans ses services, qui produisirent bien souvent de bons effets, car la puissance du Seigneur me précédait, ouvrant la voie à mes supplications dans le cœur du roi comme du conseil. Un récit plus complet de la manière dont cela advint sera donné plus loin. Il y eut peu de relâche à la persécution pendant 12 ans, de l'année 1660 jusqu'en 1672, année de la dernière guerre maritime entre les Anglais et les Hollandais. Un jugement et un malheur suivirent l'autre, peste, incendie et guerre. Tout cela entraîna une grande dépopulation et la dévastation de Londres, montrant le lourd déplaisir de Dieu contre la persécution et la cruauté, et contre cet esprit qui s'était si fortement déchaîné contre des gens innocents, consciencieux et honnêtes, dont certains furent délivrés par le Seigneur de la persécution par la mort. Pourtant, beaucoup de persécuteurs s'endurcirent au point de ne pas se repentir de leur cruauté, et nous avons observé, de notre temps, combien soudainement le Seigneur en a balayé beaucoup de cette sorte. Cependant, à cette époque, 1671-2, le roi sembla avoir de nouvelles pensées et envisagea de prendre d'autres mesures plutôt que de poursuivre la persécution jusqu'à détruire ses propres sujets, ne sachant pas quelle issue pourrait avoir la guerre hollandaise contre lui. Il publia donc une déclaration d'indulgence en faveur des dicides, pour suspendre l'exécution des lois pénales en matière ecclésiastique, intitulée « Déclaration de Sa Majesté à tous ses chers sujets », datée du 15 mars 1671-2, publiée sur l'avis de son conseil privé. Les principaux titres en sont les suivants. Notre sollicitude et nos efforts pour la préservation des droits et des intérêts de l'Église ont été suffisamment montrés au monde par tout le cours de notre gouvernement depuis notre heureuse restauration. Mais puisqu'il apparaît, par la triste expérience de 12 années, qu'il y a bien peu de fruits dans toutes ces voies forcées, nous nous croyons obligés d'user de ce pouvoir suprême en matière ecclésiastique, qui non seulement nous appartient de façon inhérente, mais a été déclaré et reconnu comme tel par plusieurs statuts et actes du Parlement. Et c'est pourquoi nous émettons à présent la présente déclaration, tant pour apaiser l'esprit de nos bons sujets sur ces points, pour inviter les étrangers en cette conjoncture à venir vivre sous notre autorité, que pour mieux encourager chacun à poursuivre joyeusement ses métiers et occupations, d'où nous espérons, par la bénédiction de Dieu, tirer de nombreux bons et heureux avantages pour notre gouvernement. Et en premier lieu, nous déclarons expressément notre résolution, notre sens et notre intention, que l'Église d'Angleterre soit préservée et demeure entière dans sa doctrine, sa discipline et son gouvernement, tels qu'ils sont actuellement établis par la loi, etc. Nous déclarons en second lieu que notre volonté et bon plaisir est que l'exécution de toutes les lois pénales, de quelque nature qu'elles soient, en matière ecclésiastique, contre quelque sorte de non-conformiste ou de récusant que ce soit, soit immédiatement suspendue, et elle est par la présente suspendue. Et tous juges, shérifs, juges de paix, etc. doivent en prendre connaissance et y obéir comme il se doit. Et nous déclarons que, de temps à autre, nous permettrons un nombre suffisant de lieux, selon les demandes qui nous seront faites dans toutes les parties de ce royaume, pour l'usage de ceux qui ne se conforment pas à l'Église d'Angleterre, afin qu'ils s'y réunissent et s'y assemblent pour leur culte public et leur dévotion, lesquels lieux seront ouverts et libres à toute personne. Afin de prévenir les désordres et inconvénients qui pourraient résulter de cette indulgence, si elle n'était pas dûment réglée, et afin qu'ils soient mieux protégés par le magistrat civil, notre volonté et bon plaisir express est qu'aucun de nos sujets ne présume se réunir en quelque lieu que ce soit, avant que le dit lieu ne soit autorisé et que l'enseignant de cette congrégation ne soit approuvé par nous. et nous déclarons en outre que cette indulgence, quant à l'autorisation de lieux publics de culte et à l'approbation des enseignants, s'étendra à toutes sortes de non-conformistes et de récusants, excepté les récusants de la religion catholique romaine, auxquels nous ne permettrons en aucun cas des lieux publics de culte, mais auxquels nous accorderons seulement leur part de l'exemption commune de l'exécution des lois pénales, et l'exercice de leur culte dans leur maison particulière seulement. Et si, après cette clémence et indulgence de notre part, quelques-uns de nos sujets présument abuser de cette liberté et prêcher la sédition, etc., nous leur ferons voir que nous pouvons être aussi sévères pour punir de tels délinquants que nous sommes indulges envers les consciences véritablement délicates. Jusqu'ici, les points principaux de la déclaration susmentionnée, et dans la première partie, on peut observer deux ou trois choses. 1. Son soin et ses efforts en employant ses nombreuses et fréquentes voies de coercition, lesquelles furent des persécutions sévères et fréquentes, conçues et utilisées pour la préservation de l'Église, c'est-à-dire l'Église d'Angleterre. 2. Pourtant, malgré tout ce grand soin pour l'Église, la triste expérience de 12 années rendit évident que bien peu de fruits sortis de toutes ces voies forcées, de ces nombreuses formes de coercition, ou de ces persécutions sévères et fréquentes. Quels fruits pouvait-elle en effet produire, sinon aucun quant à la vraie conviction des dicides, mais plutôt un fruit amé, très offensant et hautement provocateur pour le Dieu juste, déshonorant pour le roi, et extrêmement scandaleux pour cette Église à laquelle il se conformait, et à laquelle il avait donné pouvoir d'employer ses voies de coercition et ses moyens forcés. Tout cela s'étant montré stérile et inefficace pour atteindre le dessein d'imposer une conformité universelle à l'Église d'Angleterre. 3. Toutefois, il fut heureux que le roi fît enfin un aveu si sincère sur l'inutilité de la coercition et des moyens forcés en matière de conscience et de religion, bien que ce fût à la suite de la triste expérience d'une épreuve de 12 années. Les tristes effets auraient pu être évités si de telles voies n'avaient jamais été essayées. Et si ces promesses solennelles répétées de liberté aux consciences délicates avaient été tenues et accomplies. 4. Après la publication imprimée de la dite déclaration d'indulgence et sa mise en vigueur, en peu de temps nos persécuteurs furent arrêtés et contenus, et nos réunions religieuses furent généralement tranquilles dans toute l'Angleterre, le pays de Galles, etc., pendant plusieurs années. Avant qu'elle ne fût révoquée et rendue nulle, de nombreux bons effets résultèrent de la déclaration d'indulgence du roi Charles. 1. Les dénonciateurs, les persécuteurs et les persécutions furent arrêtés pendant un temps. 2. Nous eûmes la jouissance paisible et tranquille de nos réunions innocentes et de nos assemblées religieuses. 3. Nos biens et notre propriété furent préservés du pillage et du saccage par les dénonciateurs et autres persécuteurs. 4. La libération et la délivrance par le roi de beaucoup de nos amis souffrant hors des prisons, remettant leurs amendes et restituant leurs biens, par ces lettres patentes sous le grand sceau, lesquelles avaient été confisquées au roi par jugement de prémonition. Et pour la libération des souffrants susmentionnés, je travaillais et sollicitais fidèlement, dont il suit quelques récits. D'après la déclaration d'indulgence publiée imprimée, tandis que je me trouvais seul sur la route, retournant vers Londres depuis la campagne, un souci très pesant et plein de tendresse tomba sur mon esprit au sujet de nos chers amis alors en prison, au nombre de plus de 400 en Angleterre et au Pays de Galles, dont beaucoup étaient depuis longtemps étroitement enfermés, sous le coup de nombreuses poursuites, condamnations et jugements, quant au emprisonnement, amendes, confiscations et bannissements pour s'être réunis, pour n'avoir pas. Alors je fus poussé à écrire quelques lignes au roi, demandant leur liberté, ce dont j'informai notre honnête et affectueux ami, Thomas Moore, qui se montrait souvent disposé à solliciter le roi en faveur de nos amis souffrants pour leur élargissement, le roi lui portant quelques considérations. Il avait auprès du roi et de certains de son conseil plus de crédit que bien d'autres, et je le priai de présenter au roi mes quelques lignes, ce qu'il fit soigneusement, et quelques jours après, lui et moi eûmes tous deux accès à la présence du roi, et renouvelâmes notre requête que je lui avais déjà faite dans ma lettre. Alors le roi nous accorda d'être entendu le vendredi, comme il dit devant le conseil, étant le prochain jour de conseil de la même semaine. Whitehead plaide, auprès du roi Charles pour des grâces générales, en faveur des Quakers emprisonnés. Puis Thomas Moore, moi-même et notre ami Thomas Green nous rendîmes à la salle du conseil à Whitehall, et nous fûmes tous admis devant le roi et un conseil au complet, et appelés à nous avancer devant le roi, qui se tenait au bout de la table du conseil. J'eus une bonne occasion d'exposer le cas de nos amis souffrants en tant que peuple de conscience, principalement pour montrer la raison de notre refus de prêter serment d'allégeance au roi, que ce n'était ni par mépris ni par manque de respect, ni envers la personne du roi, ni en... Lorsque j'eus exposé et plaidé plus pleinement la cause de nos amis souffrants, le roi répondit ceci, « Je les gracierai ». Alors Thomas Moore plaida l'innocence de nos amis, disant qu'ils n'avaient besoin d'aucune grâce puisqu'ils étaient innocents. Un simple mandat du roi, en quelques lignes, les relâchera, car là où est la parole d'un roi, là est la puissance, dit Thomas Moore. Le roi répondit, « Oh M. Moore, il y a des personnes innocentes comme un enfant nouveau-né qui sont graciés, c'est-à-dire des peines de la loi, vous n'avez pas à faire scrupule d'une grâce. Le lord, gardien du sceau, ajouta, « Je leur ai dit qu'ils ne peuvent être légalement libérés que par une grâce sous le grand sceau. » Or le duc de Lauderdale se leva et fit sa remarque sur ce que Tomamo avait dit, de la manière suivante, « Qu'il plaît à votre majesté, je m'étonne que ces hommes ne soient pas mieux conseillés que d'accepter votre gracieuse grâce. » Car si votre majesté devait, par son seul mandat privé, les faire sortir de prison, leur poursuivant pourrait les y remettre le lendemain, et leurs biens, acquis à votre majesté en vertu du prémunir, resteraient confisqués, de sorte que leurs personnes et leurs biens ne peuvent être sûrement libérés sans l'acte. À cette déclaration, le reste du conseil acquiesça. À sa déclaration, je répondis ceci, il ne nous appartient pas de prescrire ni de dicter au roi et à son conseil quelles méthodes adopter pour la libération de nos amis. Ils connaissent le mieux leurs propres procédés en droit. Nous recherchons la fin, à savoir la libération effective de nos amis souffrant hors de prison, afin qu'ils puissent vivre paisiblement et jouir tranquillement de ce qui leur appartient. Alors ils parurent tous satisfaits, et le roi dit, « Bien, je les gracierai ou les libérerai. » Après davantage d'échanges entre le roi et nous, je regardai autour de moi le conseil et, dans la puissance du Seigneur, leur déclarai ceci, « Je ne doute pas que Dieu n'incline parfois vos cœurs et votre tendresse vers les souffrants, surtout ceux qui souffrent pour la conscience. Oh, prenez donc garde à cela, et veillez à cette tendresse, et à ce qui incline vos cœurs à compatir à la condition de ceux qui gémissent depuis longtemps et sont accablés de lourds fardeaux et d'oppressions cruelles. Quant à notre refus du serment d'allégeance, pour lequel beaucoup souffrent en prison, Dieu nous rend témoignage, oui, Dieu rend témoignage aux souffrants, que ce n'est pas par manque d'affection pour le roi ou le gouvernement, mais uniquement pour la conscience parce que c'est un serment. Je conclus par ces mots, voici le jeûne que le Seigneur demande, défaire les lourds fardeaux et laisser libres les opprimés. C'était, si je me souviens bien, proche du temps d'un jeûne prescrit. Conformément à la promesse de grâce du roi, l'ordre suivant fut donné, à la cour de Whitehall, le 8 mai 1672, présent, l'excellente majesté du roi. Archevêque de Canterbury, lord gardien du sceau, duc de Lauderdale, lord chambellan, comte de Bridgewater, comte d'Essex, comte d'Anglesey, comte de Bath, comte de Carlisle, comte de Craven, comte de Shaftesbury, vicomte Falconbury, vicomte Halifax, lord évêque de Londres, lord Newport, lord Holly, M. Le vice-chambellan, M. Le secrétaire Trevor, Sir John Duncan, M. Le chancelier du duché, maître de l'artillerie, Sir Thomas Osborne. Sa Majesté, par sa clémence princière, a daigné ordonner que des lettres fussent écrites depuis cette assemblée aux shérifs des comtés et des cités, et des comtés et des villes, et des comtés du royaume d'Angleterre et de la domination du pays de Galles, requérant qu'il renvoie des listes et registres exacts des noms, de la durée et des motifs d'incarcération de tous les prisonniers dits Quakes qui demeurent dans leurs divers geôles ou prisons, ce qu'ils l'ont fait en conséquence, et les dites listes furent, par ordre de Sa Majesté en conseil. 1. Tous ceux d'entre eux qui sont déclarés convaincus d'être transportés, bannis vers les colonies des Caraïbes, ou convaincus d'un prémunir, pour lesquels, je suppose, jugement a été rendu, ne peuvent être légalement libérés que par la grâce de Sa Majesté sous le grand sceau. 2. Tous ceux qui sont déclarés être en prison sur des brefs d'excommunicato capiendo, sans mention de la cause, ne doivent pas être libérés tant que la cause n'apparaît pas, car si c'est pour dîme, legs, diffamation ou autres intérêts privés, ils ne doivent pas être libérés tant que les parties n'ont pas été satisfaites. 3. Tous ceux qui sont déclarés être en prison pour dette, ou sur procédure de l'échiquier, ou de l'un quelconque des autres tribunaux de Westminster, ne doivent pas être ainsi libérés tant qu'on ne sait pas pour quelle cause ces procédures ont été engagées et que ces dettes n'ont pas été acquittées. 4. Ceux qui sont en prison pour n'avoir pas payé leurs amendes ne doivent pas être libérés sans payer leurs amendes ou sans une grâce. Tous les autres, j'estime qu'ils peuvent être libérés. Ce qui, ayant été aujourd'hui pris en considération, Sa Majesté a bien voulu déclarer qu'elle gracierait toutes les personnes appelées Quakers, actuellement en prison pour toute infraction commise concernant seulement Sa Majesté, et non au préjudice d'aucune autre personne. Et il fut alors ordonné par Sa Majesté en conseil qu'une liste des noms des Quakers dans les diverses prisons, avec les causes de leur incarcération, soit, et par les présents, envoyée à l'avocat général de Sa Majesté, auquel il est requis et donné pouvoir de prépa. Edward Walker, ce qui suit, est aussi une copie du mandat du roi à l'avocat général. Notre volonté, et bon plaisir, est que vous prépariez un acte propre à la signature royale et devant passer sous notre grand sceau d'Angleterre, contenant notre gracieuse grâce à l'égard de S.C. Placement pour les noms des prisonniers, pour toutes les infractions, outrages et délits commis par eux, ou par l'un quelconque d'entre eux, avant le 21 jour de juillet 72, contre les divers statuts édictés la première, 23e et 35e année du règne de la reine Elizabeth, la troisième année du règne de notre défunt aïeul royal, le roi Jacques, et la 16e année de notre règne pour ne pas aller à l'église et entendre l'office divin, et pour avoir refusé de prêter le serment d'allégeance et de suprématie. Donné en notre cour à Whitehall, le jour de juin, en la 24e année de notre règne, à notre avocat général, après avoir obtenu l'ordre et le mandat qui précède, notre ami Thomas Moore et moi les portâmes et les remîmes à l'avocat général du roi, Sir Hench Finch, Thomas fit de nouveau scrupule du mot grâce auprès de lui, comme il l'avait fait auparavant auprès du roi. Il reprit Thomas assez vivement, lui disant « M. Mo, si vous n'acceptez pas la grâce de sa majesté, je lui dirai que vous ne voulez pas l'accepter. Alors, pour l'apaiser, je lui dis que ce n'était pas à nous de discuter, mais d'accepter ce que le roi avait accordé pour le soulagement de nos amis souffrants, afin qu'ils soient relâchés et libérés de leurs emprisonnements et de leurs souffrances. » Il sembla alors satisfait. Et afin d'informer davantage et de satisfaire Thomas Mo sur ce point, après être sorti de chez l'avocat général, je le fis rentrer avec moi auprès de son greffier nommé Sandé, un vieil homme qui préparait les lettres patentes du roi ou grâce afin qu'il informât Thomas Mo de leur nature et de leur forme, ce qu'il fit très clairement. Alors Thomas dit « Maintenant cela commence à prendre forme ». Et il fut alors plus satisfait, comprenant mieux la forme et la nature de cet instrument qu'auparavant. Les scrupules ou objections de Thomas Mo contre le mot « grâce » ou contre la nécessité d'une telle grâce pour nos amis souffrants portaient sur ces points délicats. 1. Qu'étant innocents et non des criminels, ils n'avaient besoin d'aucune grâce comme les criminels. 2. Que leur témoignage pour Jésus-Christ n'admettait aucune grâce. Et en effet, nous ne pouvons ni admettre ni accepter la grâce de quelque homme que ce soit en ce cas, considéré en lui-même. Nous ne pouvons pas céder la cause du Christ, ni notre sincère obéissance envers lui, comme si c'était une infraction ou un crime nécessitant une grâce ou un pardon des hommes. Et le Christ ne nous demande pas de la lui demander, mais il nous accepte et nous approuve en cela même, où nous lui obéissons véritablement. Commentaire de l'éditeur du site. Ceux d'entre vous qui ont lu le journal de George Fox se souviendront peut-être qu'il refusa plusieurs fois la grâce du roi, étant en prison pour avoir refusé de prêter serment. Que Fox décide de prolonger sa propre détention est une chose, sa décision de principe ne concernait que lui. Que Whitehead refuse la libération de près de 500 Quakers, dont certains étaient en prison depuis plus de 10 ans, ayant été injustement condamnés à la prison à vie avec la perte de tous leurs biens, serait inconcevable. Mais d'un autre côté, nous devons raisonnablement admettre cette distinction. Là où nous ou nos amis avons été jugés ou condamnés par des lois humaines, et par leurs ministres à des emprisonnements, amendes, confiscations, prémunir, ou à la confiscation de biens au profit du roi, et où il lui fut donné pouvoir de nous bannir, et où par là nous fûmes fait ses débiteurs, quoiqu'indûmes le roi a pouvoir de remettre, gracié ou pardonné ce que la loi a fait être une dette envers lui, tout comme un créancier a pouvoir de remettre une. Le cas est clair, et la distinction évidente. Ni pape, ni prêtre, ni prince ne peuvent absoudre ou gracier des hommes aux yeux de Dieu pour des offenses commises contre lui. Mais le roi peut remettre les dettes qui lui sont dues par la loi et libérer, et rétrocéder, les biens de ses sujets que la loi lui a confisqués, sinon il aurait moins de pouvoir que n'importe lequel d'entre eux. Un roi terrestre ne peut pas absoudre une conscience coupable devant Dieu, mais il peut remettre des dettes qui lui sont dues, et restituer des biens confisqués en sa faveur, tout comme il peut libérer des personnes qu'il a pouvoir de relâcher. Une bonne conscience et le fait de bien agir n'ont besoin d'aucune grâce, mais méritent des louanges. De plus, dans le cas de nos amis frappés de prémunir, si le roi n'avait pas rétrocédé leurs biens, comme il le fit, par ses lettres patentes sous le grand sceau d'Angleterre de lui et de ses héritiers et à leurs héritiers, ils seraient demeurés confisqués et exposés à des revendications futures, et les véritables propriétaires sujets à être de nouveau dépossédés. Et par conséquent, le rapport et le conseil du Lord gardien du sceau, Sir Orlando Brigman, au roi dans le cas de nos amis précédemment relatés, étaient à la fois légaux. L'avocat général ordonna à son principal clerc, Nichols, de rédiger le projet contenant les lettres patentes du roi, pour une libération et une remise complète de nos amis souffrants, de leurs emprisonnements, sentences de bannissement, amendes, confiscations, prémunir, etc. Ce qu'ayant fait, je demandai à Ellie Rooks, notre copiste, d'en faire 4 ou 5 copies pour une distribution rapide, afin de les faire passer et les faire enregistrer dans les divers offices par lesquels les lettres devaient transiter, à savoir les offices du Privy Seal, du Signet, des Patents et du Anapé du Roi. Et comprenant qu'en raison du nombre de noms dans la patente, des droits élevés seraient exigés dans la plupart de ces offices, sauf chez le Lord Gardien du Sceau, qui avait promis de remettre ses droits et de ne rien nous demander, ce qui était une bonté, car il y avait plus de 400 noms de souffrants à libérer dans un seul document, nous apprîmes qu'ils exigeraient un droit important pour chaque personne, et nous entendîmes dire que cela pouvait coûter 20 à 30 livres de frais pour faire passer une patente ou une grâce par tous ces offices. Alors le roi donna l'ordre, selon notre demande, comme suit locusigii. Sa Majesté a le plaisir d'ordonner qu'il soit signifié, comme étant son bon plaisir, aux divers offices et aux détenteurs de sceaux par lesquels doit passer la grâce aux Quakers, que la dite grâce, bien qu'elle comprenne un grand nombre de personnes, passe néanmoins comme une seule grâce et ne paie que comme une seule. Arlington, à la cour de Whitehall, le 13 septembre 1672. Bien que nous eussions ce mandat du roi, nous eûmes néanmoins des difficultés avec certains clercs cupides qui s'efforcèrent de nous extorquer des frais. Lorsque l'instrument de libération des prisonniers fut accordé à nos amis, Il y avait, dans certaines prisons, d'autres dissides en plus des Quakers, notamment des baptistes, des presbytériens et des indépendants. Certains de leurs solliciteurs, en particulier un certain William Carter, voyant l'influence que nous avions obtenue auprès du roi pour la libération de nos amis, sollicitèrent notre aide afin que leurs amis en prison soient libérés avec les nôtres et aient leur nom dans le même instrument. Ils demandèrent instamment mon avis ou mon assistance, que je fus très disposé à donner, par compassion pour eux. Je leur conseillai donc de présenter une requête au roi, avec les noms des prisonniers, pour obtenir son mandat afin de les faire insérer dans la patente avec les Quakers, ce qu'ils firent et obtinrent. Ainsi, quelques noms d'autres dissides, qui étaient prisonniers dans le Bedfordshire, le Kent et le Wiltshire, figurèrent dans le même instrument que nos amis et furent ainsi libérés. J'étais très heureux qu'ils participent aux mêmes bénéfices grâce à nos efforts, car une fois que nous avions ouvert la voie, il leur était facile de suivre. En vérité, je n'ai jamais hésité à donner à l'un quelconque d'entre des conseils, si je le pouvais pour les aider, lorsqu'ils se sont trouvés dans l'embarras et sont venus à moi pour obtenir de l'aide. Le fait que nous appartenions à des opinions et des sociétés différentes ne diminuait pas ma compassion ni ma charité, même envers ceux qui, en certains cas, se sont opposés à moi. Parmi eux se trouvait John Bunyan, auteur du Voyage du Pèlerin, opposant déclaré des Quakers et de Whitehead, qui avait publié des livres très critiques sur les Quakers. Béni soit le Seigneur mon Dieu, qui est le Père et la source des miséricordes, dont l'amour et les miséricordes en Jésus-Christ envers nous devraient nous obliger à être miséricordieux et bons les uns envers les autres, étant tenus d'aimer la miséricorde, oui, d'être miséricordieux, autant que de pratiquer la justice et de marcher humblement avec le Seigneur notre Dieu. Après que le roi eut signé une copie de cet instrument sur plusieurs pots de parchemin, que nous avions préparé à l'avance à la chancellerie pour accélérer le traitement à l'office des patents, selon la procédure habituelle, nous le fîmes ensuite passer sous le grand sceau d'Angleterre. Comme il y avait 11 pots de vélin, en écriture de chancellerie, il avait atteint ce nombre en raison des noms de plus de 400 personnes, répétés 11 fois dans le texte. Il y avait tant de pots qu'Elie Rox et moi, ainsi que quelques autres amis, eûmes du mal à trouver un moyen de l'envoyer dans toutes les prisons d'Angleterre et du pays de Galles où nos amis étaient détenus, afin qu'ils puissent être libérés et ne soient pas retenus trop longtemps, comme beaucoup l'avaient été. Nous avions obtenu leur élargissement au prix de grands efforts, et nous étions maintenant confrontés à la tâche monumentale d'achever leur libération en tant d'endroits à travers l'Angleterre et le pays de Galles. Le meilleur plan que je pus concevoir fut de faire préparer deux doubles de l'instrument original et de les faire passer sous le grand sceau, à l'instar de l'original. Je fis cela très rapidement. Puis j'envoyai des messagers avec eux dans plusieurs directions, auprès des shérifs et des geôliers, vers le Sussex, le Buckinghamshire, Oxford, le Warwickshire et le Staffordshire, où nos amis avaient souffert le plus longtemps dans leur prison, afin qu'ils soient promptement libérés. Les amis envoyés, comme messagers, montrèrent aux shérifs et aux officiers concernés l'acte de libération du roi sous le grand sceau, afin que nos chers amis soient délivrés de leur longue détention. Bien qu'à ce moment-là j'eusse été engagé dans de longs et grands travaux et démarches pour la liberté de nos amis opprimés en prison, et que cela eût altéré ma santé et mes forces, j'étais néanmoins disposé à entreprendre un voyage dans l'Essex, le Suffolk, le Norfolk et le Hertfordshire, pour voir nos amis libérés des geôles de ces comtés, ainsi que de celles du Huntingdonshire et de Cambridge. Et ayant la patente originale sous le grand sceau, Edward Mann et William Gusnell, de Londres, voulurent bien m'accompagner dans ce voyage. Nous partîmes donc à cheval de bonne heure, arrivâmes à Chelmsford ce jour-là et logeâmes la nuit à l'auberge près de la prison. L'écarté session du comté d'Essex devait se tenir le lendemain dans cette ville. Le matin, nous allâmes voir plusieurs juges de paix, réunis dans une autre auberge. Lorsque nous nous présentâmes devant eux, je leur exposai doucement notre commission et l'objet de notre venue. Puis, produisant les lettres patentes du roi, je leur montrai quel nom de nos amis y figurait, eux qui étaient alors prisonniers à Chelmsford, et comment ils étaient libérés par cet acte. Ils parurent quelque peu surpris à la vue d'un instrument si considérable, sous le grand sceau d'Angleterre, et qu'il fût au bénéfice de tant de Quakers. Certains nous voulaient du mal et semblaient dégoûtés par nos chapeaux, toutefois, je leur dis que j'espérais qu'ils admettraient l'élargissement et relâcheraient nos amis de prison. Ainsi, après qu'ils l'eurent porté au tribunal, ils ordonnèrent que nos amis détenus dans cette prison soient relâchés. Nous poursuivîmes notre voyage vers Edmondsbury, dans le Suffolk, afin d'y atteindre les quartiers session. Celle-ci commençait au début de la semaine suivant celle de l'Essex, avec environ 2 ou 3 jours entre chaque session. Les magistrats du Suffolk nous reçurent avec civilité et, après avoir examiné en audience l'acte de libération du roi, semblèrent touchés. mais certains noms de nos amis détenus dans cette prison, qui devaient être libérés par l'octroi du roi, ne figuraient pas dans l'acte de libération, alors même que leurs infractions étaient les mêmes que celles de beaucoup d'autres dont les noms figuraient sur la grâce. Nous ne pouvions deviner où l'omission s'était produite, à moins que ce ne fût dans le rapport du shérif au roi sur les noms et les causes des Quakers emprisonnés là, que le roi avait ordonné. Le sous-shérif prit assez mal que nous le soupçonnions d'une telle omission. Toutefois, je priai les magistrats de libérer de prison les amis dont les noms avaient été omis, puisque leur cas relevait de la clémence du roi et qu'ils avaient droit à la liberté autant que les autres, au regard de la justice. Les magistrats ne s'opposèrent pas à cette demande et permirent qu'ils soient aussi mis en liberté. À ce moment-là, pendant que nous étions à Edmondsbury, je rencontrai très opportunément le sous-shérif du Huntingdonshire et du Cambridgeshire. Homme très honnête et civil, je lui montrai la patente du roi et les noms de nos amis qui figuraient, alors prisonniers dans ces deux comtés, et je le priai de veiller à ce qu'il soit délivré de prison dans les deux comtés, ce qu'il se montra très prêt à entreprendre et exécuta honnêtement, autant que j'ai pu en entendre. Après cela, nous voyageâmes dans le Norfolk à Norwich, et là, rencontrant le grand shérif, nous obtînmes la libération de nos amis prisonniers et nommés dans la patente du roi pour être relâchés. Nous revînmes à Hertford en deux jours, avant la fin des quartiers sessions, et Renwick Stout produisant la dite patente, les magistrats relâchèrent ses amis qui étaient prisonniers là. En deux semaines, nous accomplîmes ce voyage et ce service pour nos amis souffrant dans les dix comtés d'Essex, Suffolk, Norfolk, Norwich, Huntingdon, Cambridge et Hertford. Lorsque nous revînmes à Londres, nous fûmes encore plus préoccupés pour nos amis souffrant dans les parties septentrionales et occidentales de l'Angleterre, ainsi qu'au pays de Galles, car c'était une entreprise difficile et fastidieuse que d'envoyer des messagers dans tous ces lieux éloignés, où beaucoup d'amis étaient prisonniers, avec trois instruments si volumineux. La patente, que nous portions dans un étui de cuir et une boîte de fer blanc, avec le grand sceau, était si encombrante qu'Edward Mann fut contraint de l'attacher en travers du dos du cheval, derrière lui. Nous comprîmes la difficulté et le délai nécessaire pour distribuer ces mêmes patentes aux divers comtés et prisons où nos amis étaient détenus, à travers l'Angleterre et le pays de Galles. Nous savions aussi combien il serait ardu de solliciter à nouveau le roi pour un quelconque instrument, en plus de la grâce déjà accordée et confirmée. Nous désirions leur délivrance plus rapide des prisons éloignées, mais nous nous rendîmes compte qu'un instrument supplémentaire, soit par proclamation, soit par mandat de quelque membre du conseil privé, ou du secrétaire d'État, ou de l'avocat général, ou autrement, serait une grande entreprise, vu le grand nombre de noms et de lieux mentionnés dans la dite grâce. Ainsi, nous ne voyions pas comment demander un tel instrument. En outre, après tant de labeurs pénibles et de sollicitations pour obtenir ce que nous avions déjà acquis pour la libération des amis, considérant le travail et les difficultés, je décidai de consulter le juge Hall au sujet du problème. Il était le Lord Chief Justice, et nous espérions qu'il aurait une idée pour nous fournir un moyen d'obtenir la libération de nos amis qui se trouvaient dans des prisons si éloignées, comme mentionné ci-dessus. Accompagné d'Elie Rooks, je me rendis donc à la maison du juge à Acton. Nous trouvâmes le juge chez lui, et je lui exposai notre cas et notre difficulté, qu'il écouta avec équité, et il parcourut une copie de la grâce du roi, ou lettre patente ainsi dénommée. Notre difficulté était de savoir comment faire distribuer les documents pour une libération rapide de nos amis à travers l'Angleterre et le pays de Galles. Puisque le roi avait accordé leur élargissement sous le grand sceau, nous désirions qu'ils soient tirés de prison avant l'hiver, qui approchait alors, et je lui dis que, considérant que beaucoup de nos amis avaient subi une détention étroite pendant longtemps, il pourrait en résulter leur mort s'ils étaient retenus beaucoup plus longtemps, surtout en saison d'hiver. Le juge, paraissant très sérieux et attentif à la question, nous dit, « S'ils se faisaient amener par habeas corpus et comparaissaient devant moi au King's Bench, je les libérerais sur la foi de la grâce du roi. Je lui fis alors savoir que ce serait une telle dureté et un tel péril que nous n'osions pas les y exposer, à cause de l'éloignement des comtés du Nord. La santé de nombreux prisonniers était si altérée par leurs longues et dures détentions que les déplacer jusqu'à Londres, à 100 ou 200 milles ou davantage, pourrait mettre leur vie en danger. De plus, beaucoup étaient grandement diminués et appauvris par leurs souffrances et leurs emprisonnements, et le coût d'un tel déplacement serait si élevé qu'il serait trop lourd pour eux, sans compter le danger du voyage. Le juge proposa alors quelque chose comme un instrument émanant de l'avocat général, bien que, comme il disait, ce ne fût pas à lui de nous conseiller. Pourtant, il parut disposé à aider nos amis souffrants, s'il le pouvait, en suggérant de tels expédients qu'il pouvait alors imaginer, ce qui ne pouvait que me faire remarquer sa compassion et sa bienveillance à notre égard, et nous nous séparâmes cordialement. Cependant, nous demeurions dans l'embarras quant à la manière d'accélérer la délivrance de nos pauvres amis souffrants hors des prisons éloignées, Par tous les avis et propositions qui nous furent donnés, nous ne pouvions faire sortir effectivement tous nos amis des geôles presque aussitôt que je l'aurais souhaité. Le terme de la Saint-Michel, comme on l'appelle, était alors tout proche, et les sous-shérifs venant des divers comtés éloignés pour ce terme, je dis à Ellie Rox que nous pourrions prendre la grande patente et la montrer aux shérifs dans leurs auberges et bureaux, afin qu'ils puissent tirer des librates et les envoyer aux geôles de leur comté et prisons respectifs pour mettre nos amis en liberté. Nous allâmes chez le shérif du Yorkshire, qui était un homme âgé, et je lui montrai la patente et les noms des amis qui étaient prisonniers dans leur comté et au château d'York, ainsi que les clauses relatives à leur libération auxquelles il consentit volontiers. Il nous demanda de lui en donner une copie, et il rédigerait et enverrait un librate au geôlier pour leur élargissement, ce que nous fîmes en conséquence, et il tint sa promesse. J'appris ainsi davantage comment nous pourrions hâter et expédier la libération de nos amis dans d'autres comtés éloignés, et je rédigeai la forme d'un librate, conforme à la patente du roi, résumant brièvement les dispositions relatives à la libération des prisonniers. Ellie Rox en recopia autant d'exemplaires que nécessaire pour les comtés éloignés restants où nos amis n'avaient pas encore été mis en liberté, en insérant dans chaque librate les noms des prisonniers, chacun se rapportant au comté concerné, ainsi, ceux de la prison du Montgomeryshire dans un mandat distinct ou librate pour le shérif de ce comté, et de même pour les autres comtés et prisons du pays de Galles où des amis étaient détenus. Des mandats pour les shérifs de Cornouailles, du Devon, du Dorset, du Somerset, du Cumberland, du Durham, du Lancashire, et pour le reste de ces comtés respectivement où des amis n'avaient pas été libérés de prison, furent préparés pour que les shérifs les signent et les scellent, chacun pour son ressort. Ellie Rox et moi allâmes à leurs auberges et bureaux et leur montrâmes la patente du roi, avec les librates, afin qu'ils voient à quel point ils y étaient conformes, et ils l'approuvèrent et signèrent et scellèrent volontiers chaque librate, qui était un mandat adressé à chaque geôlier pour mettre nos amis en liberté, hors de la prison où ils avaient été détenus, comme beaucoup l'avaient été pendant longtemps. Ainsi enfin, après beaucoup de travail, de soins et de diligence, la difficulté qui pesait sur nous fut levée. C'est dans une profonde humilité, une tendresse d'esprit, et avec un cœur reconnaissant que je conserve le souvenir de la manière dont le Seigneur notre Dieu m'a aidé et rendu capable de traverser ces grands soins, et cette diligence dans les sollicitations pour la liberté de mes chers amis et frères souffrants. Bien que j'y aie travaillé près de 6 mois d'affilée avant que cela fût pleinement accompli, le Seigneur me donna un grand encouragement, la paix et le réconfort dans mes efforts quotidiens pour eux. Mon amour pour eux était tel qu'il m'en rendait la tâche plus aisée, et en tout cela, j'ai encore une grande satisfaction et une paix qui demeure avec moi, en Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu, je bénis son nom et sa puissance qui m'ont soutenu et fortifié, qu'il est la gloire, la louange et la domination à jamais, dit mon âme. Commentaire des éditeurs du site, George Whitehead nous montre encore une remarquable détermination au service du but. Aujourd'hui, on le décrirait comme celui qui a fait le travail ingrat. Après avoir obtenu par argumentation la libération et la grâce des Quakers emprisonnés, et étant malade, on aurait attendu de lui qu'il s'en remette à d'autres pour veiller à la libération effective des Quakers des nombreuses prisons dispersées à travers l'Angleterre et le pays de Galles. Mais avec sa responsabilité et son amour caractéristique, il se déplaça lui-même à cheval vers plusieurs prisons et tribunaux pour assurer leur libération. Puis, percevant les retards inhérents à ce processus, il imagina ingénieusement un moyen d'obtenir une libération massive très rapidement. Pendant 6 mois, il travailla avec une détermination sans partage pour soulager la souffrance de ses frères, qu'il aimait tendrement, nouveau témoignage que les premiers Quakers étaient de vrais disciples du Christ. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, de 1425. La liberté accordée aux consciences délicates par la déclaration du roi Charles de 1662 ne dura pas longtemps, car le Parlement, ou une faction mécontente de la liberté ainsi accordée et permise, saisit l'occasion de s'élever contre la déclaration et poussa le roi à la révoquer. Ils alléguaient qu'il étendait ainsi trop loin sa prérogative, ou qu'il la plaçait au-dessus de la loi, en suspendant l'exécution des lois pénales en matière ecclésiastique, suggérant combien il pourrait être dangereux de laisser subsister un tel précédent. Mais ils ne prirent aucun soin de la prérogative du Christ et de son gouvernement sur les consciences de ses sujets. Celle-ci devait être exposée à de sévères souffrances, oppressions et cruautés, par conscience envers lui et pour obéir à sa doctrine, principalement en refusant de jurer du tout, en quelque cas que ce soit, et pour se réunir solennellement en son nom et dans un culte spirituel. Si le Parlement et tous les partis mécontents de la déclaration du roi, parce qu'elle n'était pas un acte du Parlement mais de prérogative royale, avait été assez généreux et noble pour accorder une liberté générale aux consciences délicates, ou l'affranchissement de la persécution, ils auraient pu aisément transformer la substance ou l'effet de la déclaration du roi en un acte du Parlement. Et sans doute, le roi l'aurait volontiers signé et confirmé, puisqu'il avait si souvent non seulement promis publiquement la liberté aux consciences délicates, mais encore, dans sa déclaration de Breda, promis positivement et volontairement qu'aucun homme ne serait inquiété ni mis en cause pour des différences d'opinion en matière de religion, qui ne troublent pas la paix du royaume, et que nous serons prêts à consentir à un tel acte du Parlement, qu'après mûre délibération on nous proposera pour l'octroi entier de cette indulgence. Quelle promesse pourrait être plus claire ou plus encourageante pour la faire ratifier par acte du Parlement? Et de plus, dans la déclaration du roi concernant les affaires ecclésiastiques, datée du 5 octobre 1660, il est de nouveau déclaré « En un mot, nous renouvelons encore ce que nous avons dit auparavant dans notre déclaration de Breda, pour la liberté des consciences délicates, qu'aucun homme ne sera inquiété ni mis en cause pour des différences d'opinion en matière de religion, qui ne troublent pas la paix du royaume. » Et dans la même déclaration, il est en outre dit « Notre considération et notre œuvre présente sont de satisfaire les consciences particulières de ceux qui sont affligés par l'usage des cérémonies, en leur accordant indulgence et en dispensant de l'omission de ces cérémonies. » Et dans le discours du roi aux deux chambres du Parlement, le 8 juillet 1661, « C'est, je pense, pour me le rappeler à moi-même aussi bien qu'à vous, que chaque fois que je viens à vous, je vous mentionne ma déclaration de Breda, et laissez-moi vous rappeler une autre déclaration publiée par vous-même, à peu près dans le même temps, et dont je suis persuadé qu'elle a rendu la mienne d'autant plus efficace. Une déclaration honnête, généreuse et chrétienne, signée par les personnes les plus éminentes, qui avaient été les plus éminentes victimes, dans laquelle vous renonciez à toutes les animosités passées et au souvenir de tous les actes d'hostilité passés. Et, mes seigneurs et messieurs, que nul n'ait le pouvoir d'accuser moi ou vous d'avoir manqué à nos paroles ou à nos promesses, ce qui ne saurait jamais être un bon élément de notre sécurité future. » Et dans le discours du chancelier aux deux chambres, le 8 mai, il vous a dit à l'instant, entendant le roi, qu'il attachait un grand prix au fait de tenir sa parole, d'accomplir tout ce qu'il promet à son peuple. Ainsi, dans l'ensemble, il est remarquable que, lorsque le roi fit, et répéta si souvent, ses promesses de liberté aux consciences scrupuleuses, il n'apparut aucun dessein de persécution ni intention de violer ses promesses, mais bien le contraire, et combien il eût été facile d'établir cette liberté par une loi. Mais trop d'hommes égoïstes et partiaux en décidèrent autrement, car avant l'expiration du règne du roi Charles, certains de ceux qui s'opposaient à sa déclaration auraient voulu qu'un acte de considération fût adopté, afin d'inclure dans l'Église d'Angleterre certaines catégories de dicides, comme les presbytériens et autres semblables. Des accommodements, exceptions ou limitations étaient revendiqués pour cela, afin qu'ils ne fussent pas rendus conformes à la dite Église dans tous ses articles, cérémonies et formalités, mais qu'on leur accordât. Tous les autres dicides, plus consciencieux qu'eux, qui ne pouvaient se rapprocher autant d'une conformité, étaient exclus de cette considération et ne se voyaient pas accorder une liberté générale d'exercer leur religion et leur conscience. Ceux-ci demeuraient exposés à la persécution, à la souffrance et à la ruine, sous l'empire des lois pénales, si ce projet partiel et cette considération avaient abouti, par une église composée de presbytérianisme et d'épiscopat. Ou alors, qui auraient été autorisés à se tenir devant eux, sans se conformer à de tels anciens et évêques. Ce projet partial et ce dessein égoïste, plusieurs d'entre nous se crurent, en conscience, tenus de le combattre, de l'argumenter et de témoigner contre lui auprès de certains membres du Parlement qui promouvaient une telle considération, ainsi qu'auprès d'autres encore. J'en ai discuté avec plusieurs d'entre eux, leur montrant comment ils abandonnaient la cause de tous les dicides les plus honnêtes et les plus consciencieux, et perdaient ainsi grandement du terrain. Heureusement, le projet n'aboutit pas, et il y eut sans doute une main divine et une providence dans l'empêchement de son exécution. La chose aurait été rude pour le haut clergé épiscopal, si des ministres presbytériens avaient participé avec eux et avaient été faits copropriétaires de leur église paroissiale et bénéfices, dîmes et terres de presbytères, oblations et revenus, dont ils avaient auparavant été principalement, sinon entièrement, investis pendant 12 ans, jusqu'à l'année 1660, lorsque l'acte d'uniformité entra en vigueur. Alors le presbytérianisme devait céder la place à l'épiscopat et renoncer aux revenus ecclésiastiques, ou bien se conformer, ce à quoi beaucoup de grands ministres presbytériens se conformèrent avec des prétextes tels que ceux-ci, disant qu'ils ne devaient pas cesser de prêcher l'Évangile, faute de se conformer ou de se dispenser de quelques cérémonies, qui ne seraient que des choses indifférentes. Leurs grands bénéfices, dîmes, oblations et profits leur importaient bien davantage. Entre-temps, leur précédente Solane League and Covenant, contre l'épiscopat n'avait pas été pris en compte ni même rappelé par ses conformistes occasionnels. Et encore, certains parmi les presbytériens, qui étaient connus pour leur zèle contre la formalité et les superstitions de l'Église d'Angleterre, prétendant à une réforme plus grande, désertèrent les lieux où ils s'étaient ainsi fait remarquer pour leur zèle et leur réforme, et se déplacèrent dans d'autres comtés, les uns vers le sud et les autres vers le nord, où ils étaient moins connus et pouvaient plus aisément et avec moins d'attention se conformer pour le revenu ou le bénéfice ecclésiastique. Dans ces régions éloignées sans détection ni ridicule, ils pouvaient revêtir le surplis, marquer les nourrissons du signe de la croix, s'incliner devant le maître-autel, se conformer à toutes les cérémonies de leur église et plaider la décence et le bon ordre en toutes ces choses, qui auparavant n'étaient que des reliques superstitieuses de la papauté et entièrement indécentes dans le culte de Dieu. Pour rendre justice toutefois, certains ministres et certaines personnes étaient trop consciencieux pour se permettre ou s'accorder une telle conformité occasionnelle par appât du gain. En vérité, beaucoup n'auraient pu obtenir des bénéfices d'église paroissiale, même s'ils l'avaient voulu, là où demeuraient encore d'anciens ecclésiastiques épiscopaux, qui avaient droit aux bénéfices en ayant été auparavant expulsés. Ceux qui ne voulaient pas se conformer, ou ne pouvaient prendre une paroisse, consentirent à tenir des réunions privées, appelées conventicules, aussi longtemps qu'ils le purent ou l'osèrent, car peu d'entre eux souffriraient pour leur religion, ils glissaient plutôt en secret, ou s'enfuyaient par des portes dérobées, plutôt que d'être saisis ou pris par les persécuteurs. Beaucoup de baptistes subirent d'abord l'emprisonnement, mais la chaleur du jour, le poids des souffrances et de la persécution, retomba surtout sur nous, pauvres Quakers. Lorsque nous n'étions pas autorisés à nous réunir paisiblement dans nos maisons de réunion publiques, mais que beaucoup d'entre nous étaient traînés violemment en prison, et que les autres étaient expulsés de force et maintenus dans la rue, c'est là que nous sommes restés debout et avons tenu nos réunions en plein air, tant lorsqu'on nous en chassait que lorsque des officiers nous maintenaient délibérément dans les rues. Nous nous réunissions souvent dehors dans la rue, et nous restions debout en hiver comme en été, par tous les temps, aussi près de nos maisons de réunion que nous le pouvions, et nous attendions le Seigneur notre Dieu, en témoignage contre nos persécuteurs injustes et au cœur dur. De sorte que certains des autres dissides, qui n'osaient pas se réunir publiquement, ont remercié Dieu de ce qu'il avait permis aux Quakers de combler la brèche, d'encaisser le choc et de détourner de le coup, ainsi que je l'ai appris de source sûre, lorsque nous avons tant souffert à Londres comme nous l'avons fait. Dans les deux ans qui suivirent sa proclamation d'indulgence, le roi fut amené à annuler son indulgence envers les consciences scrupuleuses. Certains persécuteurs recommencèrent à paraître, et une nouvelle persécution s'éleva en bien des endroits, où ils ramassaient des amis qui rendaient un témoignage public à la vérité, et pourtant, quelque temps après, nous pouvions voyager tranquillement et visiter nos réunions dans plusieurs comtés. Mais l'ancien et principal piège que nos grands persécuteurs étaient prêts à utiliser contre nous était le serment d'allégeance. Ils savaient que nous ne pouvions jurer en aucun cas, ni pour le roi, ni pour nous-mêmes, bien que nous pratiquions et rendions sincèrement une juste allégeance envers lui, comme de vrais et fidèles sujets, rendant à César ce qui lui est dû, et à Dieu ce qui lui est dû, les choses qui sont véritablement siennes, à savoir son culte et son service, selon notre persuasion de conscience en matière de foi et de religion. Nous préférions livrer nos corps comme une rue à fouler aux pieds, plutôt que de soumettre nos âmes pour que nos persécuteurs les piétinent, et quand ils ne pouvaient piétiner nos âmes, ni les faire ployer sous leurs volontés corrompues et leurs impositions, ils nous traquaient pour appréhender et enfermer nos corps dans des prisons. Au dixième mois de 1673, nos chers amis et frères George Fox et Thomas Lowe se trouvaient dans la maison d'un ami dans le Worcestershire, sur le chemin vers leur famille et leur foyer dans le Lancashire. Ils furent arrêtés et écroués à la prison de Worcester par mandat d'un certain Henry Pock, juge de paix, et détenus prisonniers un temps considérable. L'injustice et l'illégalité qui leur furent faites sont davantage rapportées dans le journal de George Fox. Après que George Fox fut resté longtemps prisonnier à Worcester, Thomas Moore et moi allâmes trouver le roi en Hampton-Court et demandâmes sa liberté hors de prison, bien que le roi nous eût peu répondu pourtant, au bout de quelque temps, le Seigneur ouvrit la voie à sa libération. J'ai mentionné cet emprisonnement afin qu'il apparaisse combien tôt les persécuteurs malveillants se mirent à l'œuvre après que la déclaration du roi en faveur de la liberté eût été retirée. Les persécuteurs ayant été de nouveau lâchés, les diverses formes de poursuites furent reprises contre nous. Le peuple appelé Quakers, ainsi pour ne pas prêter serment d'allégeance, la peine était l'emprisonnement et la promunir, on ne pas aller à l'église paroissiale, ainsi dite 20 livres par mois, ou les deux tiers des biens d'une personne confisqués et saisis par procédure de l'échiquier ou par excommunication, et des brefs d'excommunicato capiendo étaient délivrés pour prendre et emprisonner les personnes excommuniées. Et pour nos innocentes réunions religieuses, de grands pillages furent faits de nos biens, enlevés et arrachés par une bande d'informateurs oisifs et dissolus, auxquels importait peu le ravage et le pillage qu'ils exerçaient sur nous, ni combien ils ruinaient de pauvres familles honnêtes et laborieuses. Outre les nombreux emprisonnements pénibles et prolongés que beaucoup d'entre nous endurèrent, tant avant qu'après la déclaration d'indulgence. En raison de ses souffrances, par divers canaux de procédure, on s'adressa souvent au roi, et parfois aux juges, avant qu'ils ne partent pour leurs divers circuits. Nous demandions quelques réparations de ses difficultés et de ses souffrances sévères, et de grands efforts furent faits, du moins pour rendre le roi et ses ministres sensibles à celles-ci, selon le bref récit suivant. Aux juges du roi nommés, pour plusieurs circuits dans toute l'Angleterre. Beaucoup de nos amis, appelés Quakers étant maintenus prisonniers, et beaucoup poursuivis au point de subir de grands pillages par des informateurs, et sur des brefs quitam, et par des dénonciations émises en accusation pour 20 livres, permansem dans de nombreux comtés de toute l'Angleterre, uniquement à cause de la religion et d'une conscience scrupuleuse envers Dieu Tout-Puissant, nous estimons qu'il est de notre devoir chrétien de vous rappeler leurs conditions souffrantes, comme nous l'avons fait de temps à autre. Vous suppliant humblement, dans vos circuits, d'enquêter sur les diverses causes de leurs emprisonnements et autres souffrances sous lesquelles ils gisent, et d'étendre envers eux toute faveur que vous pourrez, pour leur soulagement et leur secours. Priant le Tout-Puissant de vous diriger et de vous préserver, nous sommes vos amis et bienveillants chrétiens. Mais nous trouvâmes peu de réparation de la part des juges en ces jours-là, après de nombreuses démarches auprès d'eux, sauf lorsque le roi leur donnait quelque instruction. À cette fin, nous nous adressions parfois au roi pour faire suspendre les poursuites contre nos amis. Alors il montra quelque compassion envers les souffrants, lorsque leur cas lui fut présenté de la manière suivante, au roi le cas du peuple appelé Quaker, qui souffre encore de poursuites fondées sur d'anciennes lois, faites contre les récusants papistes, un récusant. Présenté au roi par George Whitehead, William Mead et John Osgood le 16 jour du 11e mois, 1679, introduit par William Chiffin, esq., gardien du cabinet du roi, comme il en avait donné permission et fixé le rendez-vous. Après un bref discours d'introduction au roi, par George Whitehead, le cas suivant fut présenté et lu. On se souviendra peut-être que, il y a environ 2 ans, notre cas de souffrance fut exposé devant le roi et son conseil privé, c'est-à-dire les poursuites récentes et non autorisées fondées sur les statuts des 23 et 28 années de la reine Elizabeth, faits contre les récusants papistes, au moyen desquels, et par la couleur de la loi du 3 ou du roi Jacques, les 2/3 de nos terres, tenures, héritages, beaux. Le roi voulut alors exprimer le sentiment qu'il avait du caractère déraisonnable de telles poursuites, disant « Il est dur que nous souffrions par des lois faites contre nous, et aussi par ces lois qui n'ont jamais été faites ni conçues contre nous. » Mais le Parlement siégeant alors, le roi nous renvoya à lui, comme au lieu le plus propre à une réparation effective. Obéissance à cela, nous nous adressâmes à la Chambre des communes, qui par un comité examina alors, par témoins et par archives, la justesse et le caractère raisonnable de nos plaintes, et en eut une présentation fidèle. Mais avant de pouvoir nous accorder quelques secours, elle fut prorogée, et peu après dissoute, nous présentâmes aussi notre cas au Parlement suivant, qui pour notre soulagement voulut bien insérer une clause dans un projet de loi alors devant lui, afin de distinguer entre papistes et protestants, ce qui aurait tant. Or, bien que le remède le plus efficace à ces poursuites présentes et futures, comme le roi l'a indiqué, soit par une loi du Parlement, toutefois, puisque le roi a le pouvoir en droit d'ordonner une suspension ou cessation des procédures émises pour recouvrer les amendes et profits levés sur nos biens, les confiscations étant faites au profit du roi. Nous désirons donc, dans une véritable humilité chrétienne, que le roi veuille bien accorder une suspension immédiate ou cessation de procédure jusqu'à ce que nous puissions obtenir un remède plus efficace par la voie parlementaire. Le roi reçut ce cas avec une liste des souffrants, c'est-à-dire de nos amis poursuivis, et il voulut bien donner cette réponse, qu'il est très déraisonnable que vous souffriez ainsi par des lois qui n'ont jamais été destinées contre vous, je suis contre la persécution, ou le fait de persécuter quiconque pour raison de conscience, et j'examinerai votre cas, et vous accorderai tout le soulagement que je pourrai. Je prendrai conseil, auprès de mon lord chancelier et de l'attorney général à ce sujet, pour voir de quelle manière je puis le faire, c'est-à-dire ce que nous demandions, qu'il veuille bien donner ordre de mettre un terme aux procédures contre nous à l'échiquier. Le roi nous dit en outre que la question serait soulevée au prochain jour de conseil, il s'en souviendrait, et que Shefford nous en donnerait avis, c'était un personnage connu comme spirituel et courtisan, qui fréquentait beaucoup le roi et était intime avec lui. Nous sentions que le roi, à ce moment-là, comme je l'ai connu à plusieurs autres, était touché dans sa conscience et quelque peu tendrement affecté par l'extrémité et la longue durée de ces grandes souffrances imposées à nos amis dans ce cas et dans d'autres. Mais certaines personnes autour de lui n'étaient pas nos amis et avaient trop d'influence sur lui, de sorte que ses bonnes dispositions contre la persécution et en faveur de la liberté de conscience, ainsi que ses promesses en ce sens, étaient maintes fois contrariées, et nos lourdes pressions et troubles dus aux persécutions furent, pour une large part, maintenus durant son règne, jusqu'à la fin de ses jours. Le peu de soulagement que nous obtînmes de son vivant le fut grâce aux sollicitations pressantes et aux ailes de quelques-uns d'entre nous, que le Seigneur suscita, doit et qualifia pour ce service. Ceux-ci se consacrèrent, avec un grand amour et une grande compassion pour les souffrants consciencieux, à se présenter devant l'autorité en leur faveur. Et dans ce labeur d'amour, je suis un témoin vivant de la puissance et de la présence du Seigneur avec nous, et de son conseil pour nous fortifier et nous aider dans nos tendres efforts chrétiens pour nos amis et frères souffrants. Bien que nos sollicitations n'aient pas toujours produit l'effet désiré, j'avais néanmoins cet encouragement secret de me mouvoir parfois dans une bonne cause, et de la poursuivre autant que je le pouvais, croyant que si elle était quelque temps différée ou rejetée, elle finirait en son temps par prendre effet dans le Seigneur. Et si nous ne recevions pas de gain immédiat, nous ne perdrions pas pour avoir tôt agi et suivi une juste cause. Bien des fois, lorsque nous avons souffert sous de sévères persécutions et enfermements, nous avons réclamé justice alors que nous ne pouvions l'obtenir. Pourtant, par là, nous avons acquitté nos consciences et eu davantage de paix intérieure, croyant que le Dieu juste se manifesterait pour nous, si les hommes ne voulaient pas nous entendre. Et notre Dieu a souvent plaidé de manière manifeste notre cause, et a justifié notre innocence à bien des égards, tant dans la conscience des hommes que par l'éloignement de nos persécuteurs implacables, lorsqu'ils avaient rempli la mesure. Lecteurs, les parties suivantes du journal ont été retirées du corps de cette suite de pages, mais des sections séparées sont fournies pour 1. Le récit de la longue arrestation et des procès de Whitehead à Norwich en 1680, avec emprisonnement intermédiaire. Cliquez pour lire 2. Les efforts de Whitehead pour obtenir la remise en liberté des Quakers dans plusieurs appels écrits et oraux au roi Charles Yee, ainsi qu'un récit des souffrances continues des Quakers, de ses propres souffrances, et des arguments approfondis contre la légalité de leur poursuite. Cliquez pour lire, et ils montrent tous deux la patience, la douceur, l'intelligence, la grande connaissance du droit et la persévérance de Whitehead, ainsi qu'une grande assistance du Seigneur. L'épisode du procès de Norwich a été publié comme document séparé. Aujourd'hui, je crains que ces sections ne soient trop longues et trop fastidieuses pour retenir l'attention de la plupart des personnes, vers le journal principal, suite, partie 9. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, ce qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.